Bon, allez, on va commencer. Donc, je représente pas Paul Thirion, au bout de la table, qui vient d'intervenir ce matin. À ses côtés figure Yolande Maury, qui est maître de conférence à l'UFM de Lille, vous m'interrompez si je me trompe, qui est responsable de l'unité des formations disciplinaires documentaires à l'UFM de Lille. Donc, c'est elle qui forme notamment les candidats au CAPES documentation et les futurs enseignants, professeurs pardon, du secondaire. Elle fait actuellement une thèse sur les pratiques documentaires, c'est bien ça, des enseignants du secondaire. Vous avez fini, d'accord, très bien. À ses côtés, donc nous avons Monsieur Joseph Erget, qui vient de Suisse. Donc, thank you very much for coming. Et oui, il va parler en anglais, donc je pourrais faire une petite traduction. J'espère que beaucoup d'entre vous comprennent en tout cas. Monsieur Erget est responsable de la faculté des sciences de l'information à l'Université Technologie et Économie de Chur en Suisse. Il va bientôt prendre la direction devenir directeur des études avancées au Centre pour le management du savoir et la communication à l'Université du Danube à Krems en Autriche. Il est professeur en management et en sciences de l'information. Il est anciennement professeur dans différents pays et universités, donc en Turquie, en Hongrie, Slovénie, Pologne, Russie, Australie, etc. Il a piloté de nombreux projets européens dans le domaine du management de l'information. Et il a été à de nombreuses reprises également expert auprès de la Commission européenne et de l'UNESCO dans le domaine de l'information, du management de l'information, et de la formation à l'information. Et je vous laisserai un peu plus de temps, puisqu'il vient de Suisse, et je sais que Paul Thirion vient de Belgique aussi, mais il a parlé un peu plus longtemps tout à l'heure, donc je vais lui laisser présenter un concept Diamond, qui est une nouvelle approche pédagogique de formation qu'il a développée pour ses étudiants. Et enfin, à ma gauche, Claire Nachet, bien connue ici, qui travaille depuis plusieurs années dans le domaine de la formation des enseignants à Paris 3, qui a été chargée de la mise en place de la méthodologie du travail universitaire, de la réforme suite à la loi Bayrou, et de la mise en place en fait, des formations des usagers à Paris 3. Voilà. En collaboration étroite avec le SCD. Voilà, première question d'abord, vu le thème de la table ronde, la formation en information a-t-elle réellement changé? Ben, j'aimerais donner la parole successivement à chacun des intervenants pour qu'ils nous disent ce qu'ils font aujourd'hui et comment leur pratique ou leur expérience a changé ou a évolué depuis ces 10 dernières années. On va peut-être commencer par Claire.
Alors, est-ce que vous m'entendez? Ça va là? Est-ce que les choses ont changé à l'université depuis une dizaine d'années en ce qui concerne la méthodologie, en ce qui concerne la maîtrise de l'information et l'enseignement de la maîtrise de l'information? Je suis bien mal placée pour répondre telle quelle à la question parce qu'on n'a pas d'études générales sur les universités qui permettraient de généraliser mon expérience à Paris 3. L'infirmer, la confirmer, vous en savez plus sur votre université que quiconque ici, donc dans la mesure où il n'y a pas eu encore de grandes études, et justement, ça sera peut-être une des tâches au-delà de cette journée pour la sous-direction des bibliothèques, d'initier une sorte de grand bilan, au-delà des enquêtes SCD qui existent, hein, qui sont annuelles et qui présentent un état, mais justement peut-être un état tronqué parce que n'y est intégré que la dimension de l'activité du SCD lui-même hein, sur la recherche d'informations. Les enseignants travaillent aussi sur cette question-là, même si on a bien vu toute la matinée que c'est pas si simple de fédérer des enseignants. En tout cas, je peux parler, donc si je ne peux pas parler de façon générale, je peux parler de façon particulière sur Paris 3 et témoigner qu'on peut faire travailler les enseignants. Et là, je vais donc un peu transformer la question en disant, est-ce que les choses ont évolué à Paris 3 depuis une dizaine d'années? Et la réponse est vraiment oui. Là-dessus. On a réussi à fédérer des l'institution elle-même, hein, mais ça sera peut-être l'objet d'une exploration de cela sur une autre question tout à l'heure. On a fédéré donc les institutions et on a surfé surtout sur, à l'université, sur les injonctions ministérielles. La réforme Bérou, 97, la réforme LMD, 2002, enfin 2001 pour les textes initiaux. Chez nous, ça s'est mis en place en 2002. Et puis maintenant, la loi LRU. Dans les trois cas, on a effectivement, enfin, les trois injonctions ministérielles, les trois textes qui régissent la licence master-doctorat maintenant, dans les trois cas, on a une forte incitation à intégrer dans les cursus la recherche documentaire. Et du coup, à Paris 3, on a vraiment intégré cette dimension dans les cursus. Méthodologie du travail universitaire, avec un enseignement assuré par les enseignants, voire des chargés de cours quand même, hein, le tableau n'est pas idéal, mais enfin, il y a des coordinations d'enseignants et c'est le corps enseignant qui s'en charge, avec, vous le disiez, un partenariat avec le SCD qui permet de travailler en synergie les experts de la recherche documentaire, de la maîtrise de l'information, qui vient épauler l'équipe enseignante qui, elle, assure l'enseignement auprès des étudiants. Alors, qu'est-ce qui a changé particulièrement, donc, une fois que l'incitation ministérielle est venue ? Ce qui a changé, c'est l'implication des enseignants et des UFR. Au fur et à mesure, peut-être par effet d'inertie et d'habitude de cet enseignement de méthodologie n'est plus contesté. Il est même d'autant moins contesté que la loi LRU, le plan licence, sur lequel vous travaillez certainement aussi dans vos universités, nous a donné la possibilité d'augmenter même encore l'horaire de cet enseignement. On avait 18 heures au premier semestre, nous avons, dès l'année prochaine 2008-2009, donc fin septembre, on va avoir un enseignement passé à 30 heures, 2h30 face aux étudiants chaque semaine, et donc un vrai travail, alors attention, d'articulation de la maîtrise de l'information avec deux grands objectifs à l'université qui sont aussi l'analyse critique des textes universitaires et la production d'un texte universitaire. Et donc pour nous, l'intérêt de cet enseignement, c'est de le travailler sur les trois pôles, les trois piliers, donc la recherche documentaire associée à la production d'un texte critique, d'un texte universitaire, appuyé sur la lecture de textes et donc en polyphonie avec cet apport d'informations extérieures. Voilà. Donc une autonomie de l'étudiant. Voilà. Alors, qu'est-ce qui a changé encore ? C'est le fait que cet enseignement de méthodologie dont je viens de vous parler en première année s'est déployé aussi à d'autres niveaux de l'enseignement, sur le niveau master et sur le niveau doctorat. C'est-à-dire que dans les maquettes qui vont avoir leur effet à partir de 2009, il va y avoir un enseignement de méthodologie bien plus général qu'antérieurement, pas encore global, mais avec un enseignement donc assuré par le SCD dans les masters. Et on est en train de faire des expérimentations sur le doctorat, on est peut-être moins avancé que d'autres universités de ce côté-là. Voilà, donc on est dans l'expansion. Et je dirais que c'est l'injonction ministérielle qui donne le coup de pouce. Éventuellement, et je termine là-dessus, un autre coup de pouce à venir, mais j'anticipe peut-être déjà un peu sur une autre question, c'est que la concurrence entre universités va nous obliger à bouger. Et ça, c'est très intéressant. On va peut-être s'améliorer, enfin, ou en tout cas être un peu moins inerte. À suivre.
Merci beaucoup. Je passe la parole à Joseph Herget. Can you tell us in a few words what is the situation concerning information literacy trainings in Switzerland and also in Germany? Because I think you're German, yes? And what has changed in the last 10 years in these two countries? Thank you.
Yes, I'm sorry to speak in English to you. I hope that's fine for you, for most of you. My French is far not enough to present something in French here. The situation in Switzerland is a very hard one. Why? Because it's a very decentralized country. You know, we have 26 cantons and everyone is independent. Everyone has own curriculum, even in the primary schools. Therefore, there's nothing which would be provide a central concept how to teach information literacy. Therefore, it has to be organized in a decentral way and find new concepts how to promote initiatives in the whole country. And now such a situation has started this year. There's a project called, it's called Digital Library Switzerland, ELIP-CH for Switzerland. And now there's, even this year only it's starting to have to be established there a competence center for information literacy. And they are starting in all Switzerland to look for best practices, how to do it and to distribute it amongst librarians. That's one initiative which even started only this year. That means Switzerland is not progressed in this way. It's not a country leading in Europe going for information literacy concepts because of the decentralization. It's quite hard to have such initiatives. It's a different situation in Germany. Germany is quite, I think, on a good path. It's even decentralized, but they have started a couple of years ago with some centers of excellence in collecting examples of best practices in teaching information literacy. They have sampled curricula, they have sampling materials, transparencies like PowerPoints, and everyone can exchange them. That's important that their librarians have started to collect those different materials for the different types of levels of schools, of universities, of different other colleges. Therefore, there are a lot of material available, and they are really proud to share these materials with others. Therefore, there's awareness since about 5 years when they have started these initiatives. On the second hand, there have been some projects funded by the general government, and they have provided funds in developing tutorials. And that means that tutorials are available now online on the web, and they are excellent. Really, if you compare the international standard with UK, for example, the pilot initiative, which you may know, the German, it's called Lotse. It's something like the same, like Navigator. And it's a big initiative since a couple of years, and it has started in all disciplines. Therefore, for example, for the management sciences, for biology, for engineering, and they are increasing this. That means all universities can take part in this concept. It's like a content management system, which all the materials, which all the different learning approaches, and you can customize it to your own university. You can provide the contents which are at your place important for your students. Therefore, there's now in Germany something like available. It's a material there, and you can subscribe to this concept. You have to pay a little bit of money of it, but you can use the concept which was developed by other people and customize it to you. That means that there's a material and a good curriculum and good materials which everyone can use for his own teaching. That's important, especially for the librarians who are providing some teaching for the different disciplines, but as well, it is addressing the subject specialists, the lecturers, the professors in the other subject areas, which they can use for them. Therefore, it makes, in some sense, it's not dependent more on librarians. Everyone can have access to these materials. Therefore, we see that there's much more progress situation than in Switzerland and Germany. The awareness is there, and really you can find the best practice to do it. There's, of course, a lot of criticism now about those systems because of everyone, you share the knowledge, but it's if you have something established, it's always hard to change those things and to get more progress in new topics. And I think we'll speak later on from the Web 2 development, something like this. But there's a good basis material which is already there existent. And the most important thing what has happened in Germany and not in Switzerland, in the change of the Bologna reform, and we have the bachelor and master, and nearly 70% of all the study programs have now changed to a bachelor and master, and most of the others have to change till 2010. I think the same situation here in France. The most important thing is that the competences in information literacy have been put into the curriculum in the most bachelor study programs. Therefore, it's mentioned there, and it's mostly part of a course which is called like a scientific working methods, scientific working approaches, and there are a couple of hours, and everyone is obliged to take those. And most of them are taught by the librarians, and this changes the situation because of the people are forced to take really, everyone has to put some lectures to get the credits which are necessary for the programs in bachelor study program. It's not so much developed now for master programs or even PhD programs. That's a different situation still until now, but that's a very important thing that most of the librarians in their own universities who has gotten the power to have good links to the faculties, they could get it in the curriculum, and that's something which I think by far changes their role and all the students will have been at least, it's called usually it's about 20 to 30 hours at least to have some sort of basic skills in information literacy. And this is a course which everyone has to take, and there are some exams for it. I think that's a major thing which changes a lot of things, as it is now put really on the curriculum and integrated into the other courses. That are the developments which I see in Germany and in Switzerland.
Est-ce que vous avez besoin d'une traduction rapide ou où les éléments essentiels ont été compris? Non, c'est bon. Ok. Je vais passer la parole à Yolande Maury. Alors, dans le domaine de l'enseignement secondaire et l'enseignement, la préparation des enseignants documentalistes qui sont amenés à travailler au collège et au lycée, qu'est-ce qui s'est passé durant ces 10 dernières années, si je tiens?
Bon, alors, d'abord, je voudrais dire que j'interviens non comme praticienne ici, mais comme observatrice des pratiques de ce qui se passe donc dans le secondaire ou dans le cadre donc de la formation des futurs enseignants documentalistes. Donc voilà. Alors, les changements les plus significatifs concernent moins les modalités de mise en œuvre de la formation dans l'enseignement secondaire que sans doute, comme l'a dit Annette Béguin tout à l'heure, la réflexion sur les savoirs documentaires et informationnels. Pour ce qui est des modalités de mise en œuvre de la formation, en fait, il y a un corps, les enseignants documentalistes, qui est recruté par un CAPES, depuis 1989, donc on reviendra peut-être après sur les problèmes institutionnels dans une question, donc je vais passer assez vite là-dessus. Il y a une circulaire de mission qui est antérieure au CAPES de documentation qui cadre les missions des enseignants documentalistes, missions très larges dans lesquelles il y a un volet gestion, un volet communication interne, externe à l'établissement, donc ouverture sur l'extérieur, et un troisième volet qui est le volet pédagogique autour, dans la circulaire, de la recherche d'informations. On part des contenus, découvrir le lieu, CDI, Centre de Documentation et d'Information, découvrir les ressources et découvrir les différentes étapes de la recherche d'informations. Donc, un cadre assez clair. Mais pour les documentalistes, le problème est qu'ils n'ont pas de classe en responsabilité. Donc, ils sont amenés à travailler avec tout, et appelés, d'ailleurs, par l'institution, à travailler de manière interdisciplinaire avec tous les enseignants, tous les élèves, mission impossible, et tous les enseignants de l'établissement. Et d'ailleurs, même les non-enseignants, puisqu'on peut travailler avec le conseiller d'orientation psychologue sur l'éducation à l'orientation, avec le conseiller principal d'éducation sur la formation des délégués, avec les personnels du service social ou de santé sur l'éducation à la santé ou d'autres thématiques. Donc, une mission, si j'ai une lecture critique de cette circulaire de mission, c'est une définition molle sans axe fort. Alors, ce qui peut être assez confortable pour les documentalistes, puisqu'en fait, cette mission étant qualifiée souvent d'impossible, de large, elle amène obligatoirement à faire des choix, ce qui fait que chacun peut y trouver son compte, et ça laisse une marge de manœuvre relativement importante. Donc, depuis les années 90, l'institution a introduit de manière appuyée la dimension documentaire dans les enseignements disciplinaires. Donc, toutes les disciplines. Et les enseignants étaient invités à travailler en lien avec les documentalistes dans le cadre du CDI. Alors d'ailleurs, il faut noter que très souvent, c'est le CDI qui est cité, moins souvent les documentalistes. Mais il semblerait que dans les nouveaux programmes qui sont en préparation, le rôle du documentaliste, peut-être un peu moins du CDI, apparaîtrait un peu moins que dans les programmes des années 90. Autre type de dispositif, il y a des dispositifs interdisciplinaires ou plutôt transdisciplinaires qui se sont aussi développés, toujours dans les années 90, plutôt à la fin. Collège, les IDD, itinéraires de découverte, qui sont devenus facultatifs parce que ça demande des moyens. Donc on rogne aussi sur le genre de ce type de dispositif qui coûte cher en moyens humains et financiers, en coûts pour les établissements et l'institution. En lycée, les TPE, travaux personnels encadrés, le CJS, éducation civique, juridique et sociale, l'équivalent à LEP, les PPCP à caractère professionnel, donc le même type de travaux à caractère professionnel. Et dans ce qui est plus transdisciplinaire, le B2I, dans lequel il y a un volet, s'informer, se documenter, qui est d'ailleurs très souvent pris en charge par les enseignants documentalistes. Alors, Bruno de Vauchel a fait sa thèse sur le B2I, pardon, et il a noté que, alors que ça devait être un dispositif pris en charge par l'ensemble des enseignants, en fait, il est plutôt pris en charge par les professeurs de technologie et les documentalistes qui ont trouvé là un terrain favorable. Donc voilà, des conditions plutôt favorables, donc pour peu qu'on ait la volonté, en fait, les documentalistes peuvent travailler avec les enseignants disciplinaires. Alors, donc, j'ai dit à l'introduction que le changement, c'était moins les modalités de mise en œuvre, puisqu'il y a une permanence de ce type, même s'il y a une tentation de l'institution de revenir sur les dispositifs interdisciplinaires parce qu'ils coûtent cher en moyens. En revanche, le changement important, c'est la réflexion sur les savoirs à l'information documentation, avec une mise à distance de l'approche par les référentiels, qui sont mis à distance comme et qui sont présentés comme étant trop linéaires et rendant certainement mal compte de toutes les heuristiques que l'élève peut développer au cours de la recherche d'informations. Mais disons que la formation va au-delà de la recherche d'informations, surtout lorsqu'on travaille avec les enseignants de discipline. On interroge le document, l'information, ça se rapproche peut-être de plus en plus de l'éducation aux médias, puisqu'on va interroger les médias, les documents. On reviendra aussi tout à l'heure sur les nouveaux outils comme les blogs, les wikis, qui amènent aussi à revoir les notions, les concepts sur lesquels on travaille, et poser la question de quelle est la culture informationnelle que l'on veut développer chez les élèves. Donc ce serait plutôt maintenant une entrée par les notions, par les concepts, à partir de situations problèmes, avec mise à distance des référentiels de compétences considérés comme limités dans le cadre de la formation. Et cette réflexion, qui est très forte dans certaines académies, je citerai par exemple l'Académie de Nantes, en fait, l'objectif derrière, c'est d'arriver à la construction, à l'élaboration d'un curriculum documentaire, de penser de façon raisonnée, construite, la formation dans le secondaire, donc de la sixième jusqu'à la terminale, en appui ou non sur les enseignements disciplinaires. Donc voilà, pour l'essentiel, l'enseignement secondaire.
Merci. Paul, est-ce que vous pourriez nous présenter brièvement l'état des lieux en Belgique ? Qu'est-ce qui s'est passé comme changement essentiel, institutionnel peut-être ? Est-ce qu'il y a eu des réformes comme en France durant ces 10 dernières années, des dispositifs législatifs qui ont eu des incidences concrètes et fortes sur la formation des usagers dans les universités belges ?
C'est clair que je n'ai pas d'études statistiques à ce propos-là sur ce qui se fait en Belgique, mais depuis, avec le groupe EduDoc, on est un peu un observateur de ce qui se passe. Et lorsqu'on a fait ce congrès, cette journée d'études en mai, il y a des choses qui paraissaient tout à fait changées par rapport aux dernières rencontres qu'on avait fait avec EduDoc. Et c'est assez flagrant. Effectivement, en 10 ans, je pense qu'on est passé d'une période des pionniers à quelque chose qui est devenu de l'industrialisation. Mais ce qui est important de bien comprendre, c'est que notre contexte est radicalement différent du vôtre. Vous avez un cadre ministériel, vous avez des injonctions, il y a toute une série de choses qui existent de ce type-là chez nous. Il n'en est rien en Belgique, et toute initiative de formation documentaire dans les universités provient uniquement d'efforts locaux, de bibliothécaires qui réussissent petit à petit à convaincre l'un ou l'autre enseignant, puis un doyen de faculté, pour que petit à petit se crée quelque chose, mais qui est extrêmement lié à la personne. Et je vais revenir sur cela dans un instant, parce que je pense que ça fait partie des nuages qui se trouvent au-dessus de la formation documentaire chez nous. Industrialisation, qu'est-ce qu'on peut en dire, c'est d'abord que de plus en plus, ces formations sont inscrites dans le cursus. Il y a 10 ans, il y en avait très peu. Maintenant, toutes les universités ont des formations inscrites dans le cursus, dans la plupart des cursus. Industrialisation, c'est pas seulement à un moment du cursus. De plus en plus, on observe que la formation s'étale à partir des premières années, et de plus en plus d'ailleurs vers les premières années, mais également vers les maîtrises et le doctorat, ce qui est nouveau. Il y a 10 ans, il y avait une action de formation au mieux et c'est terminé. Avec donc des grandes cohortes, des grandes masses d'étudiants à former et par contre pas de ressources humaines correspondantes. Et puis le partenariat, c'est quelque chose sur lequel nous on a beaucoup travaillé avec EIC-DUDOC en Belgique, et de plus en plus ça devient une réalité dans les formations qu'on observe chez nous. De plus en plus de ces formations se font en accord, voire en bitutélarité avec des enseignants. Et ça, c'est vraiment un phénomène nouveau. Dans les nuages qui se dessinent, je pense, au niveau de la formation documentaire, il y en a plusieurs. Le premier, j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure, c'est le problème du mandat. Je pense qu'effectivement, si la formation documentaire n'est plus ou pas encore beaucoup contesté chez nous, le mandat n'est pas clair. Et il y a, je crois, vraiment des discordances entre ce que l'enseignant bibliothécaire fait et ce qui est réellement attendu par l'institution, au-delà du discours officiel. Il y a peut-être des points de convergence importants, le discours officiel et ce que le bibliothécaire fait, mais par contre, au-delà, au niveau de la formation réelle qui est donnée dans les universités, des besoins réels, des perceptions, des ressentis des enseignants par rapport à la recherche documentaire, je crois qu'il y a vraiment de profondes discordances qui sont des nuages graves pour le développement de la formation plus tard. Un deuxième nuage, c'est les ressources humaines. Je ne connais qu'une institution qui a dégagé des ressources humaines spécifiques pour la formation documentaire en Belgique francophone. Là, c'est une équipe de 7-8 personnes dont c'est le métier tous les jours d'organiser la formation documentaire pour l'institution. Dans tous les autres cas, les bibliothécaires qui le font sur leur temps, en plus de toutes les autres choses. Et je crains que là, il y ait vraiment un problème majeur, parce que l'enthousiasme initial peut s'essouffler assez rapidement, surtout lorsque les personnes vont devoir être remplacées et avoir cette charge en plus dans l'ensemble des choses qu'il nous revient de faire. À mon avis, est un risque important pour l'avenir, et je crains qu'il y ait des formations qui ne disparaissent peut-être pas dans 1 an, 2 ans, mais dans 4-5 ans, simplement parce qu'il n'y a pas de ressources qui suivent, il n'y a pas de cadre d'institutionnalisation qui se fait. Formation des formateurs également. Vous avez des écoles spécialisées pour les bibliothécaires, pour les conservateurs, etc. Ça n'existe pas à un niveau universitaire de manière massive en Belgique francophone. Et donc la plupart des formateurs qui font la formation documentaire se sont formés par eux-mêmes sur le terrain, avec des problèmes méthodologiques qui peuvent être importants et qui vont, dans un certain nombre de cas, revenir aussi au-devant de la scène et faire l'objet de critiques de la part du monde enseignant, dont certains au départ ne sont pas convaincus que les bibliothécaires ont réellement un rôle de formateur à avoir. Voilà, du côté des hautes écoles, on a aussi eu un petit peu ce mouvement. Au départ, il n'y avait absolument rien qui existait, parfois même pas de bibliothèque. Et puis, il y a eu là quelques injonctions ministérielles. J'ai parlé de la formation des enseignants tout à l'heure, où effectivement, il y a une obligation de faire de la formation documentaire. Mais c'est déjà remis en question. Ça a duré quelques années. C'est remis en question pourquoi ? Parce que la ministre estime que ça n'a pas prouvé son efficacité. Ça n'a pas prouvé son efficacité parce que, qu'est-ce qu'on a choisi comme formateur ? Des gens qui travaillaient déjà dans les hautes écoles et qui avaient un horaire à compléter. Ils n'avaient pas de formation qu'ils devaient faire. Ils n'avaient pas de mandat clair. L'institution, la haute école, n'avait pas une demande précise en matière d'utilisation de ressources documentaires. Et donc, assez vite, ça s'est essoufflé. Et je crains que ce ne soit déjà des signes de la troisième phase de la formation documentaire en Belgique.
Merci, Paul. Je voulais poser une question maintenant sur quel est l'état de la structuration de la formation des usagers, la formation à l'information scientifique ou la formation aux médias, éducation média dans les différents niveau d'enseignement, mais je vois l'heure qui tourne et je crois qu'on y a beaucoup, qu'on a beaucoup pas traité de cette question dans les quatre petites présentations précédentes. On voit quand même qu'il y a eu beaucoup d'incitations ou même de dispositifs, qu'il y a eu beaucoup de progrès, que ce soit en France, en Allemagne, en Suisse, même un peu en Belgique, même si on voit qu'on revient un peu dessus. Bon, ça prouve qu'il y a eu un renforcement de la place de la formation, mais que rien n'est gagné et que même au contraire, il semble y avoir une certaine remise en question possible à l'avenir.